RCF.
C'est maman! Comment ça va, mon poussin?
Excusez-moi, mais j'ai encore 197 dossiers à classer.
Ça va, faut pas s'énerver.
Pardon?
Bonne journée, mon amour!
Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour une heure de détente parfumée de culture. Alors, dans le flacon aujourd'hui, humidité plus chaleur, ça donne quoi? Eh bien, des champignons pas forcément bons pour les plantes. Alors, comment les éviter? On partira à la chasse aux champignons avec Pascal Aspe dans le rendez-vous jardinage du jeudi. Et puis, un retraité qui décide de traverser l'Angleterre à pied pour retrouver une ancienne amie atteinte d'un cancer. C'est l'improbable voyage d'Harold Fry. Ça sera à suivre avec Valérie de Marne dans les sorties ciné de la semaine. Des voyages, des ermites, des rois, des mendiants, mais aussi des loups, des oies sauvages, un orang-outan ou des fleurs des prés. Autant de personnages qui peuplent les récits de notre invité. Pour qui le compte, eh bien, ça compte. Bonjour Henri Gougaud.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors Henri Gougaud, écrivain, poète, chanteur, parolier, mais aussi homme de radio et surtout conteur, votre grande spécialité, puisque vous en avez publié une bonne vingtaine de recueils, dont le dernier, Contes impatients d'être vécus. C'est paru le 27 avril dernier chez Albin Michel et ce sont de vraies pépites de sagesse, d'enchantement et d'humour aussi. Alors pourquoi cet intérêt pour cette forme de récit? Qu'est-ce que les contes ont à nous apprendre, qu'on soit petit ou grand? Vous allez nous le raconter tout doux. Il était une fois Henri Gougaud, c'est parti.
Tout doux avec Vincent Belletier.
On est pauvre quand on a peu. Ma Liang n'avait rien sous le ciel. Il vivotait dans une grotte creusée dans la falaise haute. Mais il est des miracles endormis que parfois les songes réveillent. Ma Liang, un soir, se coucha tôt. Il vit apparaître un vieillard qui s'assit au bord de son lit, tira de sa poche un pinceau, le lui tendit et murmura « Il est magique, garde-le et ne t'en sépare jamais. »
Voilà, un pinceau magique. Magique pourquoi? Eh bien parce qu'il est capable de rendre réels les dessins qu'il représente. Mais est-ce que c'est forcément une bonne chose? On laissera le lecteur le découvrir. En tout cas, c'est l'un parmi la centaine de contes qu'on peut retrouver dans votre livre, Henri Gougaud, contes de toute époque, de tout pays, de toute religion. Alors celui-ci, le pinceau magique, il vient d'où? Est-ce que vous en rappelez?
Il vient de Chine, je crois.
Oui.
Je crois bien.
Oui. Et donc, vous l'avez retransmis, retransféré donc dans ce conte impatient d'être vécu. Alors, les contes, justement, pourquoi vous y êtes autant attaché? Ben, vous allez nous le dire. Mais d'abord, un petit retour en arrière. On pourrait dire qu'il était une fois un petit garçon qui naquit il y a déjà quelques années à Ville-Moussoussou dans l'Aude. Hein. Je ne sais pas si je prononce bien. En tout cas, c'est
oui,
presque
oui, c'est ça, c'est
un
ça,
village
ça,
de contes de fées. Hein.
Mais oui, non, mais d'habitude, quand je dis que je suis né à Ville-Moussoussou, me dit, c'est où ça? C'est en Afrique?
Ben non, c'est dans l'Aude.
C'est dans l'Aude.
Alors, son papa, ce petit garçon, il était cheminot, sa maman, elle était institutrice. Est-ce que ce sont eux qui vous ont mis sur les rails des contes ou c'est venu beaucoup plus tard, Henri Gougaud?
Non, c'est venu beaucoup plus tard parce que moi, j'ai connu une enfance guerrière du tout, justement. Mais enfin, j'ai grandi pendant la guerre.
Oui.
Donc, pendant la guerre, je crois que les adultes, mes parents en particulier, avaient autre chose à faire que de raconter, de me raconter, de nous raconter des histoires avec mon frère, puisque ils étaient dans la résistance. Et bon, c'est plutôt une période,
ouais,
une période, comment dire, d'une grande austérité.
Donc pas question
tant
de...
par les conditions de vie de ouais, cette époque-là, que par les soucis qu'on pouvait avoir.
Alors, voilà, si on continue justement.
Non, vous me posez la question de savoir si j'ai découvert les contes à mon enfance. Non, j'ai découvert peut-être la frustration du fait qu'on ne me raconte pas d'histoire.
Et c'est ça qui vous a incité à vous y pencher alors.
Ouais. Je sais pas. Moi, je suis venu au conte par la passion de la poésie, par la poésie. Je crois que le conte est un des domaines de la poésie.
Si on continue votre histoire, Henri Gougaud, après une licence de lettres à Toulouse et après avoir épousé votre princesse, hein, Monique, en 57, vous allez monter à Paris, vous allez chanter vos propres textes en cabaret, mais aussi vous allez composer les paroles pour des interprètes comme Jean Ferrat, voire même une certaine Juliette Gréco. Écoutez.
Non, monsieur, je n'ai pas 20 ans. 20 ans, c'est l'âge du... Ce n'est pas le meilleur du temps, je sais, je l'ai vécu.
Voilà, monsieur, je n'ai pas 20 ans. Comment elle est née, cette chanson avec Juliette Gréco, Henri Gougaud ?
Bon, elle est née de manière toute simple. Comme à l'époque, c'était début des années 70. J'écrivais un album pour elle, enfin, on faisait ça à deux avec Gérard Joannès, qui était le pianiste de Brel à l'époque. Lui faisait les musiques, moi je faisais les paroles. Alors on se voyait souvent, on était tout le temps ensemble. Et donc un soir, je me trouvais chez Juliette, elle reçoit un coup de téléphone, et je l'entends, je sais pas qui c'est, mais je l'entends répondre « Non monsieur, j'ai pas 20 ans
». Et ça vous a inspiré ?
Je me suis dit, tout de suite, je me suis dit, oh, ça c'est un titre de chanson.
Ouais. Effectivement, c'est devenu une chanson. Alors, cela dit, c'est à la radio que vous allez donner de la voix grâce à Claude Villers qui vous embauche comme chroniqueur sur France Inter après avoir présenté votre livre « Démons et merveilles de la science-fiction ». Vous allez aussi produire vos propres émissions, présenter aussi sur RTL « Les aventuriers de l'inconnu » aux côtés de Jacques Pradel.
Jacques Pradel.
Oui, la radio, c'est vraiment le média idéal pour un conteur ?
Oui. Oui, c'est le média idéal parce que il y a aucune image qui pollue celle que se crée dans la tête. Je veux dire que le conte est un grand pourvoyeur d'images, il réveille l'imaginaire et donc on se fait le film à l'intérieur de la tête. On se fait le film et si on n'a pas d'image, si on n'a que la voix, tout reste à faire.
Tout reste à imaginer, tout reste à se faire son propre univers. Ouais. Alors justement, les contes, on va y revenir. Comment est-ce que vous y êtes plongé ? C'est la question que je vous posais tout à l'heure. On a bien compris que c'était pas pendant l'enfance. Alors c'est venu comment ? Donc par la poésie, mais est-ce qu'il y a eu un texte ? Est-ce qu'il y a eu, je sais pas, un récit qui vous a enclenché une sorte de déclic ?
C'est difficile à dire ça, je sais pas. Franchement, je sais pas comment c'est venu.
Ouais.
Par la poésie, je dis par la poésie parce que effectivement à l'adolescence, j'écrivais des poèmes, j'écrivais des petits textes. Ces poèmes là, j'ai toujours trouvé que les contes étaient comme je le disais tout à l'heure, chargés de poésie, donc je me suis intéressé à la poésie et aux contes, mais de manière très privée, quoi, très très personnelle. Je pensais pas que ça pouvait intéresser qui que ce soit. Voilà. Et puis bon, moi la poésie c'était la chanson. À l'époque, Brassens débutait, il y avait Brel, Ferré, tout ça, et je voulais faire comme eux, je voulais faire de belles chansons, des chansons, j'allais dire poétiques, des chansons qui puissent être lues, voyez. Voilà, donc j'ai fait ça, je suis passé dans tous les cabarets de la rive gauche à l'époque, c'était une période magnifique pour moi parce que je venais de Carcassonne, je découvrais... Finalement, je faisais enfin ce que j'avais envie de faire, quitte à en crever, mais enfin, je n'allais pas crever.
Ouais.
Mais enfin,
période de vache enragée, comme on dit. Ouais.
Oui, un peu, mais enfin, pas si enragée que ça, la vache, quand même. Non, mais bon. Et puis, il s'est trouvé que les hasards de la vie ont fait que j'ai fait de la radio. Les hasards de la vie, j'entends ce que vous venez de dire. J'avais écrit un bouquin sur la science-fiction, dont j'étais un grand amateur. Villers m'invite à son émission qui s'appelait à l'époque Pas de panique. Ça va rappeler peut-être des souvenirs à des aussi vieux que moi. et voilà, il m'invite à en parler. Et je vais le voir. J'en parle devant un micro. Et puis, après cet enregistrement qu'on fait d'une interview, il me dit « Tu veux pas continuer ?»
Ouais.
Je dis « Pourquoi pas ?» Oui. Et il m'a invité, comme il faisait une nouvelle émission qui s'appelait « Marche ou rêve mmh. », où on devait visiter la France profonde. Et donc, il m'a chargé de raconter une histoire tous les jours qui avait trait à la région qu'on visitait, quoi.
Et c'est comme ça que ça a démarré, alors.
Ouais. C'est tout à fait comme ça que ça a démarré. Je l'ai fait vraiment, pas par passion, mais c'était, je trouvais ça intéressant à faire. Je l'ai fait et j'étais absolument convaincu que ça pouvait pas durer.
Et ça a duré, ça a duré.
Non, mais pouvait pas durer parce que j'avais l'accent du Midi. Et à la, dans une radio nationale, c'est impossible.
C'est dommage.
Et donc, je me suis dit, quand on va s'en apercevoir, ils vont me virer. Ouais. Et puis, ils ont mis une dizaine d'années à s'en apercevoir.
Que vous aviez cet accent. On va venir au conte proprement dit. En quoi, pour vous, sont-ils aussi nécessaires que, je vous cite, les arbres, les sources, les herbes ou les maisons? Parce qu'on pourrait se dire, après tout, Henri Gougaud, les contes, c'est bon pour les enfants, c'est pas réel, c'est des histoires qu'on se raconte. Pourquoi, pour vous, cette importance fondamentale du conte?
Parce que c'est la première forme de littérature et de poésie dont les hommes, l'humanité est accouchée. Quoi.
Oui.
Parce que pendant des siècles, pendant des millénaires même, ça a été la seule culture du peuple. Parce que ce sont des histoires qui sont nées dans la nuit des temps, et qui dure encore, qu'on raconte encore aujourd'hui. Alors bon, moi je me dis, je me suis pas, c'est les Romains qui parlaient du fatum librorum, du destin des livres. Ils disaient que tant qu'un livre est nourrissant, il dure.
Ouais.
Et je crois que les contes sont des histoires qui sont nourrissantes depuis la nuit des temps, parce qu'elles durent depuis la nuit des temps.
Ouais.
Alors Les enfants, de la littérature pour les enfants, c'est pas vrai. C'est pas de la littérature enfantine, les contes. C'est pas de la littérature enfantine parce que dans de nombreuses sociétés, principalement africaines, on envoie les enfants au lit avant de raconter les histoires.
Ah, il y a les contes pour les grands.
C'est sérieux. Et puis, bon, c'était la littérature des illettrés. Les contes, c'est la littérature des gens qui savent pas lire et qui savent pas écrire. Donc quand les hommes ont appris à lire, les détentrices de cette
culture,
c'est les femmes, les vieilles qui racontaient des histoires, méprisées toujours parce que ça vient du peuple, parce que c'est pas sérieux,
parce que un peu péjorative,
ça a rien à voir avec le pouvoir, Et puis quand les femmes ont su lire et écrire, c'est devenu la littérature des ignorants entre tous, c'est-à-dire les enfants. Mais c'est pas un destin naturel, ça.
Ouais, c'est pas un destin naturel. Alors justement, d'où viennent les contes? Qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre, on va l'entendre avec vous, Henri Gougaud. Ça sera juste après une première page musicale que vous nous avez choisie. En l'occurrence, c'est Le Temps des Cerises, interprété par Yves Montand. Pourquoi cette chanson en particulier?
Cette chanson en particulier, c'est la seule chanson au monde, c'est même peut-être la seule musique au monde qui me fait monter la larme à l'œil quand je l'écoute.
Bon.
Parce que la Commune de Paris, parce que les déportés dans les îles lointaines ont regardé disparaître les côtes de la France sur le bateau en chantant cette chanson-là, qui était la chanson de Jean-Baptiste Clément, qui a été lui non plus l'a pas fait exprès de faire une chanson éternelle, parce que ça fait partie des chansons éternelles. Il l'a pas fait exprès. Enfin, c'est une histoire, c'est une chanson qui a une histoire, et une histoire qui me touche profondément. Donc, j'ai envie de l'entendre.
Eh bien, on va entendre ces quelques notes des Temps des Cerises. On se retrouve tout de suite après pour nous plonger dans ces contes impatients d'être vécus.
Thank you. Quand nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerise d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant de corail qu'on cueille en rêvant.
Voilà quelques notes de ce temps des cerises interprétées par Yves Montand. Le choix de Henri Gougaud, romancier, chanteur et surtout grand maître des contes en France avec ses contes impatients d'être vécus. Votre dernier recueil qui vient de paraître aux éditions Albin Michel et qui, entre autres, eh bien, fait parler des canaris.
L'homme dit au canari « Chante !»« Non !» répond le canari. L'homme offre au canari une pincée de graines. Il dit encore « Chante !» « Je ne chanterai pas, » répond le canari. « Si tu ne chantes pas, le chat te mangera, » dit l'homme. « Plutôt la mort que la prison, » répond tout fier le canari. « Si tu ne chantes pas, je te préviens, l'oiseau, j'ouvre la porte de ta cage. » Le canari, épouvanté, tend au ciel son bec jaune et chante.
Voilà, la liberté, ça peut faire peur, alors autant que de se faire manger par un chat. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter, ce conte-là, Henri Gougaud ?
Non, d'abord, moi, j'hésite toujours à interpréter un conte parce que je peux donner... Il nourrit tout le monde.
Oui.
Je peux donner mon interprétation, mais ça n'enlève rien à quelqu'un qui trouvera une interprétation différente. Je veux dire, bon, pour moi, j'ai l'impression, je pense que dans certaines circonstances, la liberté, c'est ce qui fait le plus peur.
Oui.
On a peur de la liberté. Vous rendez compte, pas avoir de borne autre que celle qu'on se donne soi-même, pas avoir de patron autre que celui qu'on se donne soi-même, ça peut faire peur. Et je crois que dans de nombreux cas, ça fait peur. Voilà.
Ces contes, je le disais, il y en a près d'une centaine de toute époque, hein, dans votre recueil, de tout pays, de toute religion aussi, chrétienne, juive, mais aussi musulmane, bouddhiste ou animiste, avec notamment cette histoire de femmes bisons chez les Indiens. Comment vous les avez collectées? Comment est-ce qu'elles vous sont parvenues? On vous les a racontées, Henri Gougaud, et vous les avez retranscrites? Comment ça s'est passé?
Oui, bon, moi quand je cherche des contes à raconter, je cherche des textes purement oraux ou des histoires en mauvais état.
En
mauvais état, oui, c'est-à-dire des histoires. Moi, je ne m'intéresse qu'aux contes traditionnels, hein.
Ouais.
Il faut que ce soit clair. Les contes traditionnels, c'est-à-dire des histoires sans auteur. Des histoires dont on ne connaît pas l'auteur, et vous dites, ça fait la deuxième fois que vous parlez de contes de toutes les époques, mais les contes n'ont pas d'époque.
Ouais.
Les contes, à peu près, il est impossible de dater la naissance d'un conte. Et d'ailleurs, est-ce que les contes existent vraiment? Oui, ce qui existe, c'est les scénarios de base sur lesquels l'interprète, le raconteur, le conteur va broder. Hein, voilà, c'est comme ça. Bon,
Mais ce sont des histoires, comme vous dites, universelles. Est-ce que vous faites pour vous, c'est important de faire la différence entre le conte, la fable et la légende, voire même la parabole, hein, telles qu'elles sont citées dans la Bible. Est-ce que c'est important pour vous de faire la distinction?
C'est important. Enfin, pour moi, j'essaie de raconter de belles histoires, aussi belles que possible. Si les gens sont touchés, on se fout que ce soit une légende, une parabole. Ah. Bon, mais effectivement, autant ne pas mélanger les genres. Le conte, c'est « il était une fois ». Le conte est intemporel. C'est-à-dire, il est de partout et de toutes les époques. Voilà. La légende, elle est ancrée dans l'histoire. Dans un fait historique ou dans un lieu. Il y a des lieux en France, il y a beaucoup de lieux en France. Je crois que presque chaque village de France a son lieu légendaire, un pont, le pont du diable, par exemple. Ouais. D'autres. Ouais. Voilà, la légende est ancrée dans l'histoire ou dans la géographie. Ouais. Et la fable, c'est une histoire forcément qui a une morale.
Ce qui n'est pas le cas de tous les contes, hein, où justement, comme vous le disiez, n'ont pas de morale. D'ailleurs, vous le dites, c'est assez amusant dans votre livre, parce que souvent, vous terminez votre conte en disant, si vous me croyez, tant mieux, si vous me croyez pas, tant pis, chacun fait sa propre opinion. Qu'est-ce que les contes ont à nous apprendre? Et en quoi aussi ils peuvent nous faire du bien? On va garder ces questions en réserve, Henri Gougaud, parce que le jeudi, on descend aussi au jardin, source aussi de contes merveilleux, et pour nous conter fleurettes, nous avons notre maître jardinier, c'est Pascal Aspe, il est responsable des jardins au centre Terre Vivante. Et aujourd'hui, on va partir à la chasse aux champignons.
Dites-moi, est-ce que mon jardin vous impressionne?
Splendid!
Je crois que ce que je préfère, c'est cet endroit tout seul.
Tout doux, tout ce jardin.
Et bonjour Pascal.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on va pas parler de haricots magiques ou de pommes tentatrices, mais de champignons. Alors pas ceux qu'on peut cueillir non plus pour une omelette, mais les moisissures qui peuvent se développer sur des végétaux. Pourquoi c'est le moment d'en parler?
C'est le moment d'en parler parce que il commence à faire un petit peu chaud, on s'approche de l'été. Les arrosages, on les augmente un petit peu parce qu'il fait plus chaud. Il y a un peu, selon les départements, les régions, il pleut. Et du coup, humidité plus chaleur égale généralement champignons. Et bien souvent au jardin, des champignons, il y en a plein dans le sol, un peu partout. Mais il y a plein de champignons pathogènes sur les feuillages, favorisés par ces temps humides et chauds.
Alors, mieux vaut prévenir que guérir. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas en avoir? Quel tout premier conseil vous pouvez nous donner?
Alors, première chose à faire, le champignon se développe très souvent d'abord sur les feuillages. Et donc, première chose à faire, on évite absolument de mouiller les feuillages quand on arrose. Donc, on arrose avec un jet d'eau au pied des plantes, on arrose avec un arrosoir, on arrose avec un goutte à goutte. Mais on oublie absolument au jardin d'ornement, au potager, au verger, on oublie l'asperceur qui certes est pratique parce qu'il arrose une grande surface, mais qui a l'inconvénient de mouiller les feuillages et qui dit feuillage mouillé, dit champignon.
Alors, on arrose les pieds donc par les feuillages. Est-ce qu'il y a un autre conseil en dehors de l'arrosage?
Oui, si possible. Si c'est pas trop tard, bien souvent les végétaux sont déjà en place, mais on n'oublie pas que des végétaux plantés trop près, dans des situations un peu confinées, vous savez, trop touche-touche, trop proche d'un autre végétal, ça limite l'aération et l'évacuation de cette petite humidité. Donc on aère nos végétaux, on nettoie un petit peu autour s'ils sont trop touche-touche, et puis si on a planté trop dense, on n'hésite pas peut-être à en enlever un ou deux s'ils gênent pour permettre une bonne aération entre les feuillages.
Allez, un autre conseil justement pour limiter l'humidité qui pourrait toucher les plantes.
Le petit dernier, le chouchou, toujours le même, le paillage, encore et toujours le paillage. On n'hésite pas à poser un bon paillage sur le sol pour éviter les remontées d'humidité sur le sol qui vont mouiller un peu les feuilles du bas. Voilà, donc on pose nos paillages, comme ça notre humidité, elle reste dans le sol et dans le paillage et elle vient pas se déposer sur les feuillages.
Alors je récapitule, ne pas mouiller les feuillages, aérer au maximum les plantations, pailler pour éviter les remontées humides. D'accord, mais est-ce qu'il y a d'autres conseils pour éviter les portes d'entrée à ces fameux champignons?
On n'oublie pas que quoi? Que toute plaie est une porte d'entrée. On va rentrer dans la période où on va supprimer les fleurs fanées des rosiers, donc on va faire des plaies. On va rentrer dans une période où on va tailler les gourmands des tomates, vous savez, ces tiges qui partent un petit peu partout. On va faire des portes d'entrée. Donc on n'oublie pas, une porte d'entrée, c'est une facilitation pour le champignon de rentrer dans le végétal. Donc on fait les portes d'entrée les plus petites possibles. Autrement dit, on ne fait que des petites plaies, on ne coupe que des petits gourmands de tomates et que des petites tiges de rosiers qui ont porté les fleurs fanées. Et si jamais la tige est trop grosse, eh ben on la laisse, c'est pas bien grave. Il vaut mieux laisser un gourmand ou laisser une rose fanée plutôt qu'avoir une grande porte d'entrée.
Voilà donc pour ce premier conseil. Alors si malgré tout on voit les champignons débarquer, qu'est-ce qu'on peut faire, Pascal ?
Ah bah alors il existe certes des préparations maison, un petit peu aller remède de sorcière, de conte de fées.
ouais, on est bien dans le sujet là. Oui.
Mais qui fonctionne ou des solutions du commerce. Mais on n'oublie pas que que toute préparation fait maison ou du commerce qui fonctionne, elle a une action et que cette action, c'est pas forcément toujours la bonne idée de détruire les champignons. Donc une fois le champignon est là, à vous de décider. Est-ce que ça vaut le coup de lutter ou non contre ce champignon ? Les solutions existent. Est-ce qu'il faut les mettre en œuvre ? C'est à vous de décider.
Eh bien, merci Pascal pour cette chasse aux champignons et à la semaine prochaine pour faire pousser de nouveaux conseils. Bonne fin de semaine à vous, Pascal.
Au revoir.
Champignons, champignons, même si certains d'entre nous sont tout mignons, on est juste de la moisissure au fond. Champignons.
Doudou avec Vincent Belletti.
Voilà, alors les champignons, il y en avait un fameux magique, celui d'Alice au pays des merveilles qui faisait monter ou descendre la petite fille selon la quantité absorbée. Mais la nature aussi, Henri Gougaud, elle est très présente dans les contes. Montagne, mer, désert, jardin, avec cette très belle histoire que vous racontez dans votre livre de simples fleurs bleues des prés qui finalement n'a pas à rougir de la comparaison avec un pin majestueux ou une rose délicate et qui s'en sort d'ailleurs beaucoup mieux qu'eux. La nature bienveillante ou pas, en quoi c'est un élément fondateur d'un conte, à votre avis ?
La nature ?
Oui.
Oh ben, c'est simple. C'est parce que on a oublié déjà que 90% de la population du monde était paysanne. Il n'y a pas si longtemps. Il y a deux siècles, quoi, à peu près. Avant le grand basculement des campagnes vers les villes, les contes font partie de la culture agraire, de la culture paysanne. Tout naturellement. Et puis ils sont le reflet de la société qui les a accueillis, qui les a développés, qui les a racontés. Et toute la période immense par rapport à au total de la période où les gens ne savaient ni lire ni écrire, mais ils cultivaient la terre, ils savaient des choses qu'on ne sait plus. Aujourd'hui, ils le mettaient dans les histoires, ils se racontaient des histoires tous les soirs. Il n'y avait pas la télé.
Oui, c'est vrai.
Les contes, c'était la télé.
Eh bien, justement, on va continuer de la brancher, cette télé de contes avec vous, Henri Gougaud. On vous retrouve dans un instant pour parler de ces contes. Et puis, on se projettera aussi derrière le grand écran avec le film sélectionné pour vous par Valérie de Marnac. À tout de suite.
Tout doux. Une émission de RCF et Radio Notre-Dame, présentée par Vincent Belletti.
Et retour sur le plateau de Toudou avec notre invité Henri Gougaud, écrivain, parolier, chanteur, producteur radio, mais aussi et surtout ici conteur, un genre qu'il affectionne particulièrement. Témoin son dernier recueil, Contes impatients d'être vécus, c'est publié aux éditions Albin Michel, soit une centaine de récits de tout pays, de toute religion, comme par exemple celle qui se passe dans l'Antiquité grecque. Écoutez.
Athènes. Une ruelle ombreuse, un homme court vers le soleil qui baigne la petite place où Socrate tente d'instruire quelques jeunes philosopheurs assis sur des bottes de paille. L'intrus leur arrive dessus. « Ouais, les gens, écoutez-moi, j'ai une étonnante nouvelle. » Socrate répond « Un instant, dis-moi d'abord, est-elle vraie, sûre, exacte, vérifiée ?»« Je l'ignore, » dit l'autre, « on vient de me l'apprendre. » Elle concerne ton cher Platon. Est-elle bonne, au moins agréable à entendre ? Franchement, je crains fort que non. Peut-elle malgré tout être utile à quelqu'un ? Je ne me pose pas ce genre de questions. Je dis ce qu'on m'a dit, c'est tout. Récapitulons, dit Socrate. Si ta nouvelle n'est ni sûre, ni agréable à partager, ni utile à qui que ce soit, que puis-je en faire ? Garde-la et passe ton chemin, bonhomme.
Voilà, de l'utilité de certaines infos dont pourraient s'inspirer certaines chaînes d'actualité en continu. Voilà cet extrait lu par Catherine Ségouffin qu'on peut retrouver dans votre livre. Alors, c'est vrai qu'en parcourant votre recueil Henri Gougo, on prend mine de rien des petites leçons de vie. Alors, sur la vanité du pouvoir, l'humilité, la nécessité de ne pas vivre dans la rancœur, l'amour filial ou conjugal, qui peut être plus fort que l'or ou toutes les richesses. Il y a aussi l'entraide, les dangers aussi de la science avec ces savants qui se font dévorer par un lion qu'ils ont remis en vie. Est-ce que c'est ça aussi le but des contes, nous faire réfléchir sur notre condition humaine, nous donner ces quelques petits grains de sagesse?
Mais bien sûr, bien sûr. Il faut pas oublier, mais il faudrait qu'on en parle trop longtemps. C'est difficile, un peu de mots, de dire l'essentiel. Les contes s'intéressent et ne parlent que de la vie. Ils ne parlent pas du monde. Ils n'ont pas de dimension sociale, les contes. De l'actualité, de ce qui se passe, etc. Ça leur est égal. Ce qu'ils explorent sans cesse depuis la nuit des temps, c'est la vie. C'est-à-dire la naissance, la mort, l'amour, le désir, le deuil, enfin, tout ce qui concerne, tout ce qui fait notre vie, tout ce dont on devrait a priori s'intéresser, parce que, au fond, tout ce qui passe par le monde, ça disparaît, ça passe, c'est des modes, ça ne s'incruste pas, ça ne se perpétue pas. Mais tout ce qui concerne la vie, depuis la nuit des temps, depuis nos ancêtres préhistoriques, on a froid, on a chaud, on meurt, on vit, on naît, on aime, on vit. Et ça change pas. Et les contes servent ça, ils servent la vie de l'humanité. Ils ne parlent que de la vie de l'humanité. Et dans la vie de l'humanité, il y a aussi comment s'adapter, comment faire pour n'être pas trop abîmé par tout de même cette planète où nous vivons qui n'est pas la plus hospitalière du monde quand même. Bon, comment se débrouiller avec ça? Alors, les contes disent ça parce que ça fait partie de la vie.
Ça fait partie de la vie. Alors, il y a de la sagesse, mais aussi de l'humour. On pourra citer, par exemple, la façon dont un guérisseur a soigné un roi paralytique, ce qu'il advint aussi du mariage d'Abdoul, avec une flatulence, on va dire, historique. Moi, je laisse vraiment les lecteurs la découvrir. Et celle qui m'a fait beaucoup rire aussi, c'est celle du mécréant et de l'ours affamé, qui est devenu un bon catholique. En quoi le rire n'est pas incompatible aussi avec le conte? Parce qu'on a l'impression que le conte, ça doit être un petit peu philosophique, un petit peu sérieux.
Mais attendez, mais pourquoi il serait incompatible avec le conte? Je viens de vous dire que c'est la vie, les contes, c'est la vie. Et le rire, c'est pas la vie.
Ah bah si, mais encore faut-il...
Ah, je veux bien. Il y a quand même... Je sais pas si vous vous souvenez de lui. Moi, je m'intéresse au Moyen-Âge, je m'en souviens. Mais un certain inquisiteur qui s'appelait Bernard Guy considérait et prêchait que le rire était un péché. D'accord.
On se rappelle du nom de La Rose aussi, le fameux film tiré de Umberto Eco, oui.
Le rire, il fait partie de la vie, Dieu merci.
Henri Gougo, après le jardinage, eh bien on parle aussi de cinéma. Quelle sortie ne pas rater? Eh bien on va voir tout cela avec notre critique en tout genre cinématographique. C'est Valérie de Marnac et aujourd'hui, eh bien on va prendre la route.
Oh, attention, moteur,
annonce.
Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat.
On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Coupé.
Tout doux. Le film de la semaine.
Et bonjour Valérie.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Alors le Festival de Cannes vient de se terminer, vous y étiez d'ailleurs, mais l'actualité du cinéma, elle continue. Et pour débuter ce mois de juin, qu'est-ce que vous nous conseillez cette semaine?
Oui, parce qu'effectivement, traditionnellement, il y a peu de sorties en salle au moment du festival, mais j'ai envie de vous parler d'un film qui sort donc aujourd'hui et au charme certain, c'est L'improbable voyage d'Harold Fry. C'est adapté d'un roman britannique à succès et c'est l'histoire d'un vieil homme qui entreprend de traverser l'Angleterre à pied pour rejoindre une vieille amie sur le point de mourir. Il ne l'a pas revue depuis longtemps, depuis un drame qui les a séparés, et il part comme ça, voilà, sans rien, à la suite d'une lettre reçue et d'une remarque totalement fortuite que lui fait la caissière à son supermarché.
Who do we know in Berwick-upon-Tweed?
We don't.
It's from Queenie Hennessy. She's in a hospice. For a friend, she has cancer.
My aunt had cancer. If you can't give up, it's about what's in here.
And your aunt got better because you believe she could?
She said it gave her hope.
Did I leave a message for Queenie Hennessy?
Tell her Harold Fry is on his way.
Harold?
I'll keep walking and she must keep living.
Have you been drinking?
The only time you walk is to get to the car.
I need to do this, Maureen.
Voilà, alors bon, le film a quelques petits défauts, hein, on peut le trouver gentillet, un peu trop mélo par moment, et être un peu agacé par l'utilisation répétitive des flashbacks qui illustrent un peu les souvenirs de d'Harold Fry et toute sa relecture de vie qu'il fait en marchant. Mais moi, j'ai été vraiment touchée par cet homme qui, au seuil de son existence, bouleverse totalement son ordre des choses pour aller vers l'essentiel, pour réparer ce qui doit l'être et pour s'abandonner à une forme de providence, hein, puisque le film nous parle de certes de deuil, de culpabilité, mais aussi d'amour et même de foi. C'est suffisamment rare au cinéma et il est porté par deux formidables acteurs délicieusement british. Hein. On l'a entendu, Jim Broadbent qu'on a déjà vu dans des films différents, hein, comme Harry Potter, Bridget Jones, et puis surtout celui du très grand réalisateur anglais Mike Leigh.
Voilà, et puis dans le rôle de sa femme, on peut citer Penelope Wilton, autre actrice anglaise immortalisée en Lady Merton dans la fameuse série Downton Abbey. L'improbable voyage d'Harold Fry, eh bien, il est signé Etty MacDonald, réalisatrice de nombreuses séries pour la BBC. Il est donc sorti ce mercredi en salle. Eh bien, merci Valérie, et puis à la semaine prochaine pour d'autres coups de cœur en série.
Doudou avec Vincent Belletti.
Henri Gougaud, l'improbable voyage d'Harold Fry. Je ne sais pas si c'est un film qui pourrait vous plaire, parce que c'est un film un peu initiatique, hein, comme le sont souvent les contes.
Oui, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu le film. Donc, ouais.
Mais y a le fait de partir à pied, de traverser toute l'Angleterre à pied, hein, pour rejoindre donc cet ancien ami, ça fait partie, on le retrouve, cet esprit un peu initiatique dans les contes.
Oui, oui, oui. J'ai écrit un précédent livre de contes qui s'appelle « Le livre des chemins ». Et parce que, justement, il y a beaucoup de contes qui... La vie est un chemin, donc... Voilà, il y a beaucoup de contes qui parlent de ça, qui parlent de ce chemin, voilà. Et justement, ces contes-là sont importants parce que, mais c'est le seul fait de raconter une histoire dit en sous-texte que la vie a un sens. Voilà, parce que raconter une histoire, c'est prendre quelqu'un dans une situation, au début d'un temps de crise, et de le suivre jusqu'à un aboutissement. Il y a une cohérence. Il y a dans toute. Il n'est pas de récit sans cohérence et sans sous-entendu que la vie a un sens.
La vie a un sens. Les contes, ils ont souvent aussi été portés au cinéma. Alors on se rappelle les dessins animés de Walt Disney, Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle au Bois dormant, Pinocchio, La Petite Sirène d'ailleurs, qui va ressortir en version animée numérique. Vous en pensez quoi de ces adaptations au cinéma? Est-ce que c'est un bon moyen de les transmettre ou c'est un petit peu limiter notre imaginaire? Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, je crois pas. Non, je trouve que c'est une belle chose, une excellente chose. Ça ne peut que faire du bien aux histoires. C'est les versions de Walt Disney sont de très belles versions. De toute façon, si elles ont été adoptées par les gens, c'est qu'elles correspondent à une nécessité. Elles touchent, quoi. Ouais. Voilà. Donc, je suis, moi, pour la multiplication. Et puis, de toute façon, vous savez, les contes, on les raconte, on en fait des publicités aussi, on les utilise à toutes les sauces, les contes. Ouais. Ils sont bons depuis la ferme ancestrale jusqu'au studio de cinéma d'aujourd'hui. Ils en ont subi des transformations, voilà. Et puis, ils sont toujours vivants, ils sont toujours là. Ils sont toujours là, justement, parce qu'ils bougent.
Parce qu'on
les transforme, parce qu'on invente sans cesse une nouvelle version d'une histoire comme ça.
Henri Gougaud, écrivain, conteur, dont le dernier recueil « Contes impatients d'être vécus » vient de paraître aux éditions Albin Michel. On expliquera pourquoi justement ce titre, hein, de ce recueil « Impatients d'être vécus ». Dans un instant, justement, eh bien, vous allez nous en raconter un. C'est bien le moins qu'on puisse vous demander.
Ah oui.
Ce sera juste après notre page musicale, toujours de votre choix. Et cette fois-ci, c'est Serge Reggiani, « Paris ma rose ». Une explication pour ce titre?
Une explication pour
oui.
ce titre?
Pourquoi vous l'avez choisi?
Pourquoi je l'ai choisi? Parce que ça fait partie pour moi des chansons que je préfère parmi celles que j'ai écrites, voilà. Oui. Elle a une histoire, cette chanson.
Eh bien, on va l'écouter, cette histoire, en intégralité avec Serge Reggiani. Et puis tout de suite après, on vous entendra pour nous raconter justement un conte. À tout de suite.
Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Où est passé Paris ma rose? Paris sur Seine la bouclée. Sont partis en portant la clé, les nonchalants du long des quais. Paris ma rose, où sont-ils passés, Villon et ses filles? Où est-il passé, Genin, l'avenue? Et le chemin vert, qu'est-il devenu? Lui qui serpentait près de la Bastille. Où est passé Paris la grise? Paris sur brume la mouillée. Les partis, Paris l'oubli est parti sur la pointe des pieds. Paris la grise. Où sont-ils passés ceux qui fraternisent avec les murailles et les graffitis? Ces soleils de craie, où sont-ils partis qui faisaient l'amour au mur des églises? Où est passé Paris la rouge, la commune des sans-souliers? C'est perdu vers Aubervilliers, ou vers Nanterre, l'embourbé, Paris la rouge. Où est-il passé Clément des cerises? Est-elle fermée la longue douleur du temps où les gars avaient si grand cœur qu'on ne voyait que lui au trou des chemises? Où est passé Paris que j'aime, Paris que j'aime, et qui n'est plus?
Paris ma rose, interprété par Serge Reggiani. Et c'est vrai que parfois la capitale ne sent pas vraiment la rose. En tout cas, c'était votre choix, Henri Gougo, romancier, homme de radio et surtout grand spécialiste du conte, avec la sortie le 27 avril dernier de ses contes impatients d'être vécus, publiés chez Albin Michel. Alors le moins qu'on puisse vous demander, hein, Henri Gougo, c'est de nous raconter justement un de ces fameux contes. Moi, je vous en propose un qui va montrer d'une drôle de manière que la solution la plus simple est souvent la meilleure. C'est page 99 de ces contes impatients. Est-ce que vous pourriez nous le lire?
Oh ben oui, je me doutais un peu que vous alliez me le demander.
Alors allons-y. Premier ministre, c'est comme ça qu'elle s'appelle.
Premier ministre. Ce roi, dès qu'il fut roi, n'eut qu'un désir en tête. S'abstenir autant que possible de s'échiner à gouverner. Or, il convient, selon les sages retirés au fond des forêts, qu'un berger compétent dans tout pays sérieux conduise le troupeau. Il décida donc de nommer, pour occuper la chaise à côté de son trône, le meilleur des premiers ministres disponibles sous le ciel bleu. Appel d'offres, entretien d'embauche, tri sélectif des candidats, après un fagot de semaines, debout, quoique flappy, devant Monsieur le Roi, ils ne sont plus que trois, Sa Majesté parle, on se tait. Très considérable génie, sachez que l'un de vous sera, avant le bal de tout à l'heure, mon assistant perpétuel. Ne reste qu'une ultime épreuve, après quoi, bonsoir les perdants. Vous allez être confiné dans une chambre sans fenêtre à la porte de bois ferrée. Sa serrure fut fabriquée par un homme à l'esprit cocasse, mais sacrément alambiqué, le bouffon du feu roi mon père. Le premier qui saura s'extirper de ce piège sera gratifié d'un bref tapotement sur son épaule droite et du titre que vous savez. Laissez-moi maintenant, bonnes gens, je fatigue. La chambre, elle est ombreuse, elle sent le renfermé. Voilà les trois assis sur des tabourets bas, fixant la porte, l'œil mauvais, méditation interminable. Puis l'un enfin va se courber, le nez à deux doigts des ferrures. Il mesure, on ne sait trop quoi, note des chiffres sur sa manche, grogne lourd et revient s'asseoir. Alors son voisin, un ascète, soulève son maigre fessier, s'en vient prudemment à l'obstacle, risque un doigt dans le trou de clé, cherche un Judas, n'en trouve pas, examine de près les gonds, il les compte, ils sont trois, se gratte le menton, réfléchit, abandonne. Impossible, dit-il enfin, cette serrure est diabolique. Le troisième, les yeux mi-clos, se caresse un instant la barbe, rit seul, soudain, l'œil amusé. Il dit aux autres « Restons simples ». Il tourne à demi la poignée, la porte grince à peine, elle s'ouvre en grand, tranquille, les bras du roi aussi.
Voilà, alors je sais pas si c'est comme ça qu'Emmanuel Macron a recruté ses ministres, les enfermant dans une chambre fermée. En tout cas, ça montre bien qu'un brin de sagesse et le côté pratique peut surmonter bien des difficultés. Alors, ce conte, vous l'avez lu, Henri Gougaud, mieux vous l'avez raconté, c'est vraiment tout un art. Vous donnez d'ailleurs des formations sur l'art du conte qui affichent complet. Je sais pas comment on peut expliquer cet engouement pour le conte. Comment ça se fait que toutes vos sessions soient remplies comme ça?
Bon, ils sont remplis, mais enfin, vous savez, je fais des stages pour des gens qui veulent apprendre à raconter, mais ils sont guère plus de 15 personnes par session.
Oui, mais déjà.
Je fais pas.
Ouais, déjà, il y a un intérêt pour le conte qui continue, alors, à ce moment-là.
Ah non, mais je sais pas, vous vous rendez pas compte. Ça, d'ailleurs, personne s'en rend compte et c'est finalement très bien comme ça. Les contes sont discrets. C'est de la culture discrète. Il n'a pas besoin de publicité. Ouais. Le conte. Il circule comme ça, de bouche à oreille, de cœur à cœur, je dirais. Parce que ça, c'est quelque chose que vous ne m'avez pas encore demandé, mais je pense que vous allez le faire, mais tant pis.
Allez-y.
Pourquoi ce titre?
Oui, justement, j'allais dire. Pourquoi ce titre compte impatient d'être vécu?
Parce que les contes sont des êtres vivants. Voilà, parce que les contes sont des êtres vivants. En tout cas, on a tout intérêt à les considérer comme tels. Et voilà, ils se glissent partout où il y a de la vie.
Henri Gougaud, pour plus de détails justement sur ces formations et puis également sur votre actualité, sur votre biographie, il y a un site internet auquel je renvoie les auditeurs, c'est henrigougaud.com, Henri Gougaud avec un i et puis Gougaud qui s'écrit Gougaud.com. On se retrouve dans quelques petites secondes pour terminer ensemble cette émission.
Doudou avec Vincent Belletti.
Le comte Henri Gougaud, est-ce qu'il a encore de beaux jours devant lui à votre avis? Surtout dans la période un peu anxiogène qu'on traverse, guerre en Ukraine, inflation galopante, dérèglement climatique. Est-ce qu'il a encore de beaux jours devant lui, ce comte?
Je suppose qu'il y a les gens qui étaient à votre place il y a 4 ou 5 000 ans, ils devaient se poser la même question.
Ouais.
Et le comte est toujours là, quoi. Ouais. Vous vous rendez pas compte que c'est la plus ancienne littérature du monde, de l'humanité, quoi. Que c'est du conte, que c'est du récit raconté et oral, que sont nées la poésie, la dramaturgie, le roman, que sont nées toutes les formes littéraires qu'on connaît aujourd'hui. C'est comme si vous demandiez si l'air qu'on respire aujourd'hui, on pourra le respirer demain.
Bah, j'espère.
Non, mais
c'est ça, mal parti, mais j'espère quand même.
La réponse est oui. Ouais. La réponse est oui, ouais. Bien sûr, mm-hmm. Sauf effectivement si c'est la fin du monde.
En tout cas,
c'est toujours possible.
Je crois que
les contes résisteraient à la fin du monde. Il y a un conte qui dit ça. Il y a un conte très bref, je vais vous le dire. Attendez. C'est, si vous avez encore la veille de la fin du monde, si tu as une poignée de blé dans ta main, sème-la.
Et c'est tout.
La veille de la fin du monde.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il ne compte ni la fin du monde.
Certains...
Même la veille de la fin du monde, il faut encore avoir foi en l'avenir.
Certains maîtres soufis affirment que la bonne histoire racontée au bon moment à la bonne personne peut changer le cours d'une vie. Je suis sûr de ça, vous écrivez en préface. Qu'est-ce qui vous rend aussi sûr de cet aspect bénéfique du conte, Henri Gougaud ?
L'expérience. L'expérience, moi je suis amateur de conte depuis 50 ans à peu près. Un peu moins quand même, non ? Oh, pas beaucoup moins.
Ouais. Non. Oui. On va pas compter.
Je crois que j'ai fréquenté les contes. Oui. J'ai fréquenté les contes moi-même pendant. Et je veux dire qu'ils ont un peu infléchi ma vie.
Mais c'est vrai que certains contes pourront parler à certains auditeurs, auditrices, certains contes leur laisseront parfaitement indifférents. Mais c'est vrai que dans votre livre, et j'en ai fait l'expérience personnelle, il y a certains contes qui m'ont beaucoup touché, comme par exemple celui de la charrette,
mais
sur
oui,
l'entraide.
Oui,
et chacun peut piocher, voilà, chacun peut piocher sa petite réflexion pour continuer à avancer sur le chemin. Hein. C'est un petit peu ça aussi le but de ce recueil, hein. C'est de trouver la petite pépite qui va vous correspondre.
Ben, c'est-à-dire qu'il faut fréquenter ces histoires comme des amis.
Oui.
Parce que, comme je le disais tout à l'heure, les contes sont des êtres vivants.
Oui.
Et c'est vrai, parce qu'ils ne sont passés, ils ne nous ont atteints qu'à force de passer au travers de la vie des autres. Combien de gens, la petite histoire que j'ai racontée là, et toutes celles qui sont, combien il a fallu que des gens racontent ces histoires depuis 3, 4, 5 000 ans ou plus, pour qu'elle m'arrive à moi et que j'en fasse un livre ou un décompte.
Ouais, c'est toute une histoire, justement. Un grand merci, Henri Gougaud, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle encore une fois ces contes impatients d'être vécus. Vous allez certainement trouver le conte qui vous correspond. Je remercie aussi Catherine Ségouffin, qui a lu des extraits de ce recueil, également Pierre Samanos, et puis notre autre lutin, la technique, Nathan Faure. On va se quitter en musique avec votre dernier choix. C'est La Matinée, interprétée par Jean Ferrat et Christine Fèvre. J'imagine que vous en avez écrit les paroles, Henri Gougaud.
Oui.
Oui, et c'est pour ça que vous nous le proposez. Oui.
Voilà.
Tout simplement.
Ouais.
Voilà, charité bien ordonnée commence par soi-même. Un grand merci encore une fois, Henri Gougaud. On se quitte avec Jean Ferrat et Christine Fèvre. Je vous souhaite un très bon début de soirée à l'écoute de RCF et de Radio Notre-Dame. Et puis pourquoi pas vous plonger dans les contes.
La matinée se lève. Toi debout, il est temps.
Attends encore, attends. J'ai pas fini mon rêve.
Le soleil nous inonde. Regarde-moi ce bleu.
Attends encore un peu, je refaisais le monde.
Lève-toi donc, respire, quel printemps nous avons.
J'efface mille avions, une guerre, un empire.